France Culture, l'esprit d'ouverture.
Un espace de création affranchi des codes, l'expérience. Aurélie Charron.
L'expérience lance son premier podcast original en 3 épisodes, Les enfants de Duras. Léa Capuano a retrouvé ceux qui avaient 6 ans en 1967 et qui avaient répondu aux questions de Marguerite Duras pour l'émission Comme il vous plaira sur France Culture. Un demi-siècle plus tard, ils se retrouvent dans leur école rue Saint-Benoît à Paris et re-répondent aux questions.
Est-ce que tu voudrais être grande ? Il n'y a pas des choses comme ça qui t'étonnent ?
Les enfants de Duras, le premier podcast original de l'expérience, à télécharger sur franceculture.fr et les plateformes de podcast.
France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron recevra les sapeurs-pompiers de Paris aujourd'hui à l'Élysée. Un hommage alors qu'ils étaient près de 400 lundi soir à lutter contre l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Hommage également sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris, toujours. Hommage en musique et en lecture avec un extrait de l'œuvre de Victor Hugo. Des pompiers qui aident depuis l'incendie les conservateurs du patrimoine à stabiliser l'édifice et à sauver encore des sculptures, peintures et objets rares. Alors pour rénover, pour reconstruire ce qui a été touché de la cathédrale. Le Premier ministre Édouard Philippe annonçait hier une aide pour les particuliers dont les dons sont inférieurs à 1000 euros. Une aide de réduction fiscale. À ce stade, plus de 850 millions d'euros ont été promis de la part de particuliers, mais aussi d'entreprises et d'hommes d'affaires. La grève s'élargit à l'APHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, alors qu'une grève illimitée est en cours depuis dimanche dans les services des urgences. Un préavis a été déposé pour une journée de mobilisation de l'ensemble du personnel à partir de ce soir et jusqu'à samedi. Tous les syndicats de l'APHP dénoncent de mauvaises conditions de travail, notamment face à la violence contre le personnel. C'est une façon de peser dans les négociations, une façon aussi de tester les batteries de leurs armes nucléaires. Les Coréens du Nord ont essayé hier soir une nouvelle arme tactique, arme de courte portée. Il s'agit du premier test d'armes rendu public par la Corée du Nord depuis l'échec du deuxième sommet entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et l'américain Donald Trump. Et puis au Pérou, un ancien président s'est suicidé hier. Il devait être arrêté par la police. Alan Garcia a été soupçonné de corruption dans le scandale Odebrecht du nom d'un géant brésilien du bâtiment, une entreprise qui avait distribué pendant plus d'une décennie 788 millions de dollars aux pays d'Amérique latine et notamment 29 millions au Pérou entre 2005 et 2014, notamment donc quand Alan Garcia était président du Pérou.
Chaque jour sur France Culture, à midi, La Grande Table, le magazine de la culture et des idées, Olivia Gesbert.
Un écrivain et un philosophe donnent leur version des gilets jaunes. Plume de l'introspection, Grégoire Bouillet s'improvise cette fois gonzo journaliste à l'acte 4 du mouvement. Qu'il parle de lui ou des autres, l'auteur du dossier M et de Rapport sur moi est toujours aussi piquant et érudit. Tout ce qui bouge n'est pas rouge, rappelle de son côté le penseur marxiste Alain Badiou, pour qui le nouveau prolétaire n'est pas gilet jaune, mais migrant. Deux invités, deux partis pris.
La Grande Table, ce jeudi à midi et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03. Toufik Hakem est à vos côtés pendant une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. La chanteuse Noah est de retour avec un étonnant album, tout en hommage à Jean-Sébastien Bach. Letters to Bach, produit par Quincy Jones, rend donc hommage au célèbre compositeur allemand du XVIIIe siècle à travers 12 pièces adaptées par le guitariste et compositeur Gilles Dore, sur lesquelles la chanteuse israélienne a posé ses propres textes, textes poétiques, souvent engagés d'ailleurs, en anglais et en hébreu. Noah est mon invité ce matin.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
זוהי אינבנציה של יוהאן סבסטיאן בך הראשונה שהוא רשם שלא נשכח רשם אותו ואסלח כמעט רק אותה לפח כמו דבר של מה בכך בעוד הדיות הריב הלך וכך ניצלה ליצירה קטנה פשוטה המקמקה מתוקמה הוא יפה כל הכבוד סבסטיאן בך היצירה יפה כל כך הנה משפט מלודי רך כמו דו שיח עם מלאך הלך
Bonjour, shalom, salam alaikum Noah.
Shalom, tu fais shalom.
On vient d'écouter un des 12 titres de votre dernier album, disponible en France chez Naïve, Letters to Back, que vous venez présenter en France et interpréter sur scène. Mais avant de parler musique, parlons politique, puisqu'un hasard de calendrier vous fait arriver en France alors que Benjamin Netanyahou vient de réussir, après un scrutin serré, de se faire élire pour un cinquième mandat à la tête du pays. Malgré les scandales financiers, malgré sa politique hostile à toute forme d'accord de paix et son projet d'annexer les territoires palestiniens, je suppose que pour vous ainsi que pour tous ceux et celles qui en Israël se sont mobilisés pour faire avancer le processus de paix, c'est un coup dur.
Yes, it's a very dark day for us.
Oui, c'est un jour sombre pour nous aujourd'hui.
Yeah, in fact, I prefer not to talk about it.
À tel point que je préfère ne pas en parler.
We have a lot of work to do.
On a beaucoup de travail à faire encore.
Well, we have to continue working for peace harder.
Oui, il faut continuer d'œuvrer pour la paix et de multiplier nos efforts encore.
Everyone in Israel.
Et chacun en Israël, pas seulement les musiciens.
Mais ce retour aux religieux, Noah, comment vous l'expliquez, ce succès des formations ultra-orthodoxes comme Chasse et le judaïsme unifié de la Torah, c'est-à-dire ces deux partis qui viennent d'obtenir des résultats très significatifs, plus élevés qu'annoncés, avec pour chacun 8 sièges. Alors, c'est bien sûr une nouvelle déprimante, mais pas seulement pour les laïcs, mais aussi pour les pratiquants d'un judaïsme plus ouvert et tolérant. Comment expliquez-vous ce succès des religieux en Israël?
I think people are driven by fear.
Je crois que les gens sont guidés par la peur.
Religion is a very comfortable escape from the troubles of your life.
Et la religion, eh bien, c'est un moyen d'échapper de manière très commode à tous les maux qui nous affligent sur terre.
It's true everywhere in the world.
Et ça, c'est vrai pour chacun dans le monde.
In fact, I don't think Israel is very different from the global trend.
D'ailleurs, je ne crois pas qu'Israël échappe à cette tendance qu'on observe au niveau mondial.
Which means we have a lot of work to do.
Et ça veut dire, là encore, qu'en effet, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Pour vous, c'est un jour noir, comme vous venez de le dire, Noah, mais que vous gardez quand même de l'espoir. Vous dites qu'il faut se battre, mais se battre comment?
Well, I've been fighting for peace for 25 years.
Ça fait 25 ans que je me bats pour la paix.
I've always said the same thing.
Et je répète toujours le même message.
And I will continue to give this message.
Et je continuerai de faire passer ce message.
Par exemple, dans votre dernier album, à ces lettres, à Jean-Sébastien Bach, comment s'exprime votre engagement et votre envie de militer pour la paix?
This is not a political album. Mm-hmm.
Cet album, Lettre à Bach, n'est pas un album politique.
It's pure music.
C'est de la pure musique.
It's the best music I can make.
Et c'est le meilleur de ce que je peux produire musicalement.
Johann Sebastian Bach, for me, is the Everest of music.
Parce que Jean-Sébastien Bach, bien sûr, je place sa musique très très haut.
There is one song that is influenced by the Palestinian-Israeli conflict, and that is the song called Look at Me.
Mais il y a une chanson dans cet album, Look at Me, qui parle du conflit israélo-palestinien.
From the point of view of a woman.
Et du point de vue d'une femme.
It's actually two women on both sides of the wall.
En fait, à travers les yeux de deux femmes, chacune d'un côté du mur.
Who insist to see each other's humanity despite the barrier.
Et qui disent qu'elles veulent continuer à voir l'humanité chez l'autre malgré les murs qui séparent.
Until the barrier falls.
Et jusqu'à ce que le mur soit abattu, qu'il s'écroule.
On va écouter cette chanson noire, mais est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez écrit ces paroles? Qu'est-ce qui vous inspirait? Est-ce qu'il y a eu des événements autour de vous qui vous ont inspiré ce texte ou ça rentre dans le cadre de votre travail d'auteur-compositeur depuis longtemps ancré dans ce combat pour la paix entre les Palestiniens et les Israéliens?
Well, I've been working for many years with organizations, Israeli and Palestinian, who are working to change the situation, and especially some fantastic women's organizations.
Cela fait des années que je travaille avec des organisations palestiniennes ou israélo-palestiniennes qui cherchent à changer cet état de choses, et notamment avec une association de femmes palestiniennes.
Also, I've been working for over 20 years with Mira Awad, who is my very good friend, Palestinian-Israeli songwriter, and we are carrying this message in Eurovision, but not only, throughout concerts throughout the world.
Et puis je collabore, comme vous le savez, avec une formidable artiste, une chanteuse israélo-arabe, arabe-israélienne plutôt, qui s'appelle Mira Awad. Et on avait porté ensemble notre message au concours de l'Eurovision, et on continue de le faire à travers les concerts et les tournées.
And of course, Me Too is another inspiration for this. You know, the entire Me Too movement has inspired me as well.
Et puis j'ai aussi été inspirée par le mouvement Me Too.
Pourquoi ce mouvement MeToo a eu un écho particulier en Israël?
Just like everywhere else in the world, we
comme
heard
partout yeah, dans le monde.
We heard people, women raising their voices more and more.
Et on constate que partout les femmes élèvent la voix. Maintenant,
but
elles osent parler.
It's only the beginning. It must, should be much more.
Et je crois que ce n'est que le début d'un mouvement beaucoup plus vaste et profond encore.
Look at me across the border. Beyond the wall, look at me the way you would observe yourself in life's broken mirror. No, I refuse to bow to those who say the world is changing now, and as it changes, there's no way to see the other like a child lost in the loneliest night. Those who'd sent in us to fear and fight. Here is a woman in labor. Her child will soon be born, but who knows if he'll find favor in the eyes of those who rule in rampage, who dominate the earth and skies. With words of hate, they close the gates of hope. Come, we cannot let them blind. For every woman in the world knows what it's like when they cripple and bind us. Forever searching and waiting and anticipating, we ask ourselves when, we ask again and again, when will we finally find freedom? Look, there is a crack and it's growing. There is a light and it's glowing through the sorrow, beyond the tears, beyond tomorrow. There must be something more that we can do. I can see you, your beauty shows beyond your weakness and pain. It glows, the morning is near now. As the stars disappear, we'll shatter that wall, we'll watch it fall. Together, sister, we can. Come, give me your hand.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
avec Noah ce matin. Noah qui sort donc un nouvel album, Letters to Back. Là, on vient d'écouter cette chanson, ce dialogue de deux femmes de chaque côté du mur, une femme palestinienne, une femme israélienne. Noah, c'est toujours bon de rappeler ce que signifie votre vrai prénom. Ça signifie sœur de la paix.
Achinoam.
Alors, comment ça se prononce?
Achinoam, you should be able to do it.
Achinoam, Nini.
Achinoam, yes.
Donc, ça signifie sœur de la paix.
Ouais.
Donc, vous étiez vraiment destinée à militer pour la paix. Je peux résumer un peu votre histoire. Vous êtes née donc en 1969 à Tel Aviv, dans une famille juive d'origine du Yémen. Vous aviez 2 ans quand vos parents ont émigré aux États-Unis, ou plus précisément à New York, dans le Bronx. Et si plus tard vous retournez en Israël pour accomplir votre service militaire et y vivre, c'est plus par amour, parce que vous avez rencontré un Israélien. Donc, résumons, racines arabes, yéménites, religion juive, culture américaine ou new-yorkaise, vous êtes israélienne, votre identité musicale. Elle s'est construite où, Noah? À New York? C'est plutôt New York qui a joué le rôle?
Yes, New York, yeah. Because New York, I feel very fortunate to have grown up in New York with so many musical influences, a lot of jazz and rock and folk music, musical theater, opera. You know, all of these things came into me as a child and I loved them very much. And actually in this album, Letters to Bach, you can hear a lot of that, especially the jazz, scat, and musical theater exists a lot.
Oui, j'estime avoir eu beaucoup de chance d'avoir atterri à New York, où, comme vous le savez, il y a toutes ces influences multiples. J'ai écouté du jazz, du rock, du folk, des comédies musicales, de l'opéra, une énorme richesse dans cette ville de New York. Et donc, dès ma petite enfance, j'ai été exposée à tous ces genres musicaux. Et je crois qu'on trouve un peu de cette influence dans ce dernier album, Letters to Bach. On entend des petites notes de jazz, on entend du scat, on entend un peu de comédie musicale même.
Oui, ça swing. Et comment êtes-vous arrivé à Jean-Sébastien Bach? Est-ce qu'il y avait beaucoup de musique classique dans cette famille d'exilés à New York, dans le Bronx?
It's interesting. Well, Bach is amazing. It's just amazing music. I think it has nothing to do with culture or language or generation. I don't think anyone can stand in front of this music and not say, oh, wow, it's beautiful. And in this sense, Bach is a bridge between cultures. And all my life, I'm looking for these bridges. I want to build bridges between cultures.
Oui, Bach est absolument étonnant, fantastique, et on peut dire qu'il n'appartient à aucune culture en particulier, à aucune langue ou à aucune génération. Il appartient à tous, et Bach a vraiment créé comme un pont entre les cultures, et toute ma vie, c'est ce que j'ai voulu faire, jeter des ponts entre des cultures différentes.
Parlez-nous de votre initiation à la musique, Noah. Comment vous avez commencé?
Well, I started singing very young, yeah, really, really young, mostly in the Shabbat table, you know, and the prayers, and later writing poetry. When I was 6, 7 years old, I was already writing. I was the kind of kid that everyone said, oh, Noah, she will be a musician, you know, because she has this talent. So very natural. I just grew up into it.
Je crois que ça m'est venu assez naturellement. J'ai commencé à chanter très très jeune. Bon, au début, ça se limitait à des chants à la table du Shabbat et pour les prières. Et puis, je me suis mise à écrire de la poésie dès l'âge de 6 ou 7 ans. Alors, tout le monde dans la famille disait, oh Noah, elle porte la musique en elle, elle va être musicienne.
Ouais, mais est-ce que vous avez fait un conservatoire, des études musicales? Est-ce que vous aviez eu des maîtres quand vous étiez jeune à New York, Noah?
I didn't like to study music. No,
en fait, ça me plaisait pas d'étudier la musique.
I mean, I studied a little bit of piano, but I stopped because I wanted to write songs. I didn't want to play exercises. I was a free spirit.
J'ai appris à jouer au piano, mais j'ai vite arrêté les cours. Ça me barbait de faire tous ces exercices. En fait, moi, j'avais envie d'écrire des chansons déjà, d'écrire de la musique, et j'étais un esprit libre.
I sang in a choir, and that I like to do because I had a wonderful teacher in choir. Until this day, I love him. He was very inspirational for me.
Et puis quand même, je chantais dans une chorale au lycée, à l'école. Et là, on avait un maître de chant qui était formidable, qui m'a beaucoup inspirée, beaucoup appris.
And then after my military, I went to study at the Rimon School of Music, which was like a school of jazz and contemporary music. But I was only there for 1 year, again, because I like to be independent. But It was at the Rimon School that I met Gildor, who was my teacher. Mm-hmm. And he became my musical collaborator for 29 years.
Ouais, il est toujours là, même dans le dernier album.
Mm-hmm. Alors, j'ai étudié la musique quand même, oui, à l'école de musique de Raymond, qui se consacre à l'enseignement du jazz et de la musique contemporaine. Là encore, je me disais, je suis pas faite pour les études, je veux créer de la musique, donc je n'y ai fait qu'un bref passage d'une année. Je crois que c'est à cause de mon indépendance, je crois, qui me démangeait, mais c'est là que j'ai rencontré un formidable professeur qui est devenu mon collaborateur, Gildor.
Pour 29 ans.
C'est incroyable. Et là, vous travaillez avec Quincy Jones. Moi, je me suis, voilà, mais moi, je me suis dit tout de suite, elle réalise son rêve de jeune new-yorkaise. Enfin, travailler avec le maître Quincy Jones. Est-ce que vous avez été bercée aussi par la pop américaine?
Oui, bien sûr. C'est impossible de vivre en Amérique sans connaître les musiques de Quincy Jones.
Ciel, elle parle français, là.
Il est maître. Il est vraiment. Ouais. Non, my French is so bad, sorry. But
he's very good with
French. I go to English. So Gildor and I, we met Quincy Jones in 2003, and it was actually the Ave Maria that I sing, which was our first connection. He loved this very much. And he invited me and Gil to perform in many of his big events, especially the ones connected to peace and to issues in the world, like We Are the Future. He did a big event in Rome called We Are the Future, etc. We played him our Bach pieces just, you know, in his living room like this, you know. Mm-hmm. Listen, Quincy, what we are doing now. And we could not imagine his reaction was so enthusiastic. He said, wow, I love this. It sounds like a Grammy album. I said, okay, you're exaggerating. But he was very serious. I want to be the producer of this album. You know, I like it the way it is. No bombastic, like this. Simple, send me the tracks. I will give you my comments. And I'm your producer. And he did it. And he's the producer. It's a small miracle. Hein? Un petit miracle.
Bah ouais.
Oui, ce petit miracle a commencé lorsque Gildor et moi-même, nous avons rencontré Quincy Jones en 2003. C'était au tour de l'Ave Maria, déjà du Bach. C'était notre première rencontre et Quincy Jones est tombé amoureux de cette chanson, de l'Ave Maria. Et de ce fait, il m'a invité avec Gil à participer à des grandes manifestations, autour de la paix par exemple, ou une autre manifestation importante où il nous a invités à venir chanter. C'était We Are the Future. Voilà, donc la paix dans le monde, l'avenir du monde. Et puis, on lui a joué un jour nos pièces travaillées à partir de Bach avec Gil. On était dans son salon, on a fait une petite impro comme ça. Et il a été très enthousiaste, il nous a fait part de ses ambitions. Il a dit, mais ça c'est un album digne des Grammy, ça va faire un tabac, etc. Donc on s'est laissé emmener, mais en même temps c'est un album qui n'est pas prétentieux, qui n'est pas emphatique, qui est tout dans la douceur. Et puis il a accepté de le produire, c'était formidable.
Un album très simple, vous insistez à chaque fois pour dire que ce Letters to Bach est quelque chose que vous vouliez très dépouillé, mais pourquoi avoir fait cet album en réalité? Est-ce que c'est pour rendre hommage à Bach, sans aucune autre arrière-pensée? Est-ce que c'est pour inviter Bach, compositeur que vous appréciez dans la scène pop, et le faire connaître à un grand nombre? Ou peut-être il y a une troisième raison qui m'échappe?
To sing Bach, you don't need a reason. It's like praying, really, because he is the great master of music. I started writing the lyrics almost by accident. But then I realized that I can contribute something to the great master Bach by bringing him into the 21st century. Like in this album, you can find religion, you can find technology, you can find Instagram and WhatsApp, you can find humor and fun and jazz, you know, things that didn't exist when Bach was alive.
Oui, je crois que c'est l'amour de Bach qui m'a poussée à souhaiter l'inviter dans notre monde, à notre table. Et on n'a pas besoin de raison, en fait, pour adapter Bach ou se plonger dans sa musique. C'est un peu comme prier. C'est le grand maître incontesté de la musique. Et j'ai commencé à écrire des paroles sur sa musique, presque par accident. Et puis tout à coup, je me suis dit, mais j'ai envie, le projet a pris forme, j'ai envie d'amener Bach, de le présenter dans le 20e, 21e siècle même, sa musique est magnifique. Et j'ai décidé de parler sur cette très belle musique de sujets d'aujourd'hui, de problèmes contemporains qui ont trait à la religion. Vous entendrez dans les chansons des phrases qui traitent de la technologie, d'Instagram, WhatsApp,
Elon Musk,
ouais, de l'euthanasie, l'humour, tout ça se trouve sur la musique de Bach dans ce disque.
Et les puristes, ceux qui aiment jouer Bach d'une manière classique, qu'est-ce que vous leur dites, Noah?
We receive some fantastic comments from classical musicians. The greatest example is a fabulous French pianist by the name of David Frey. Mm-hmm. I don't know if you know him, but I admire him so much. And he was one of my inspiration for this album. We had a chance to meet him and to play him this album, and he loved it. And he sent me a message on WhatsApp saying, wow, I love so much this album. It's a big compliment for us.
Oui, en fait, on a reçu avec Gil des compliments qui nous ont beaucoup touchés de la part de beaucoup de musiciens classiques, justement. Notamment ce pianiste, David Frey, qui m'a beaucoup inspirée. Avec Gil, on lui a joué des morceaux de cet album sur Bach. Et puis, il nous a encouragé, il a adoré, il nous a envoyé un petit message aussi par WhatsApp. Enfin, on a reçu beaucoup de compliments de musiciens classiques. Et ce qu'il remarque, c'est qu'en fait, on est respectueux de Bach à 100% dans cette adaptation. Il n'y a pas une seule note qui a été modifiée. On a accepté tous les défis, les notes compliquées. On a tout gardé 100% de Bach.
I want to say one more thing. You know, it looks like the world is going into a dark place and a very sometimes low and vulgar place. And my protest, this is my protest against it. When everything is going dark, I want to shine the light. When everything is going vulgar, I want to put the music in the highest place. I don't want to play this game of to go more down and more vulgar and more brutal. No, I want to go more elegant, more noble, more beautiful. And this is my protest.
Oui, on peut s'inquiéter de la marche du monde actuellement. On dirait qu'on va tous à toute allure vers des lieux très sombres, noirs, inquiétants, vulgaires aussi. C'est ce qui nous entoure. Et donc, c'est un peu un manifeste, ce disque. C'est ma manière de protester. Quand je vois trop de noir, trop de sombre autour de moi, j'ai envie de faire briller la lampe, la lumière. Quand tout est vulgaire, eh bien, je ne veux pas rajouter à la vulgarité, rajouter à la brutalité. Au contraire, je veux être encore plus élégante, plus noble et plus belle dans le travail musical que j'apporte.
Oh, quelle belle note pour terminer. Allez, on va choisir la chanson la plus joyeuse de votre album, Noah, oui. Letters to Bach, c'est-à-dire No Baby. Et c'est bien de vous entendre rire ce matin. Quand vous êtes arrivé, vous étiez plutôt accablé par ce qui se passait dans le monde et surtout par les résultats électoraux en Israël. Vous voilà souriante et combative.
Vous souvenez, ma chanson plus fameuse est Smile Without a Reason Why. Souris sans raison.
Ouais. Et ben voilà. Merci beaucoup, Noah, d'être passé.
Merci.
No, baby, no, baby, no, baby, no. Don't you ever say you're gonna go ahead and leave me. No, baby, no, baby, don't ever go. When I'm with you, I'm elated. All the rest is overrated. Every word you say at every moment of the day, the scooby-doo, the shooby-doo, but gives me shine, the knack-a-doo, but gives me see, the door I roll every single day. So, baby, so, baby, so, baby, so. Oh, what do you say we take a little stroll around the city? Go, baby, go, baby, go, baby, go. Sip and shake and eat the shopping. Then go dancing till we drop it. Whirl around and wiggle like I can always make you giggle when the two of us are moving. All the universe is grooving and the rhythm gets us all, then all our cares away. Hey, baby, you know it's true. You and me got to boost it together. Step up and do what you do. People say you're crazy, disconnected, maybe hazy, but they haven't got a notion of the power in your motion and the simmer in your potion takes my breath away.
Don't voilà, l'extrait de Letters to Bach, le dernier album de Noah, disponible en France chez Naïve. Le réveil culturel, c'est tous les jours dans les petits matins de France Culture, de 6h à 6h30. Et pour celles et ceux qui se lèvent plus tard, le podcast et l'écoute en ligne sont disponibles à la page de l'émission qu'on peut retrouver très facilement en quelques clics à partir de franceculture.fr. Merci FDR pour la traduction. émission. Voilà, cette émission a été préparée avec Corinne Amar et Maëlle Ray, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique, Frédéric Changenet. Bonne matinée, à demain.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. À lire dans ce nouveau numéro, À quoi bon la littérature dans un monde d'images ? De Christine Angot à Naomi Wallace, plus de 50 écrivains répondent. Un dossier exceptionnel. Au sommaire également, une sélection de 30 romans essentiels pour comprendre notre temps, La crise sociale par l'historien Gérard Noiriel, une masterclass avec Riyad Satouf et un grand entretien avec Alain Touraine. Retrouvez Papier en kiosque et en librairie. Événement, Tintin revient sur France Culture dans le Temple du Soleil.
Si j'ai bien compris, votre ami Tournesol a été enlevé.
En mettant à son poignet le bracelet de la momie de Raspar Capac, Tournesol a gravement offensé les derniers Incas. Cap sur le Pérou, enquête, course-poursuite, rite sacrificiel. Haddock et Tintin sauront-ils lever la malédiction ?
Tournesol est à bord, capitaine. Je l'ai vu.
Le Temple du Soleil, une coproduction France Culture, Moulinsart et la Comédie Française, avec l'Orchestre National de France. Inédit, le feuilleton, du 22 au 26 avril à 20h30, et dans un podcast exceptionnel sur franceculture.fr.
Je suis si heureux de vous retrouver. Mais dites-moi, que signifie cette sorte de mascarade ?
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30, par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les conservateurs du patrimoine, accompagnés des pompiers, pourront récupérer sans risque des sculptures et peintures dans la cathédrale Notre-Dame de Paris d'ici demain. Et d'ici là, l'enquête continue. Nous vous expliquons comment elle se déroule 3 jours après l'incendie. Nous nous interrogerons aussi sur les dons pour la reconstruction de la charpente du toit de la flèche de la cathédrale. Ils dépassent les 850 millions d'euros. Dans ce journal également, zoom sur l'étude du SNES à propos de la réforme du lycée. Elle n'empêchera pas les inégalités entre élèves, dit le syndicat. Et puis nous irons à Strasbourg avant la dernière session plénière du Parlement européen. Les eurodéputés hier ont voté un texte contre les contenus terroristes sur le web. Mais l'on commence par ce suicide au Pérou hier, suicide d'un ancien président du pays, Alan Garcia. Cela s'est passé lorsque la police a voulu l'interpeller dans le cadre d'une enquête pour corruption. Président de 1985 à 90, puis de 2006 à 2011, Alan Garcia a voulu échapper à la justice, Eric Sanson.
Le Pérou est encore en état de choc et le président Martin Vizcarra a décrété 3 jours de deuil national. Le corps d'Alan Garcia, âgé de 69 ans et père de 6 enfants, est arrivé hier soir dans les locaux de son parti, l'Alliance populaire révolutionnaire américaine. Il sera veillé toute la nuit par ses proches et ses partisans qui ont jeté des fleurs blanches sur le cercueil à son arrivée. Alan Garcia était accusé d'avoir touché les pots de vin du géant brésilien de la construction Odebrecht pour lui faire obtenir le contrat de la première ligne de métro de Lima. Les principaux dirigeants d'Odebrecht ont signé un accord de remise de peine avec le parquet péruvien en échange de leurs témoignages. Selon eux, ces paiements passés par des fonctionnaires très proches d'Alan Garcia, comme Luis Nava, ex-secrétaire général de la présidence durant son 2e mandat, ou encore l'ex-vice-président Miguel Atala. La veille de sa mort, dans une entrevue avec Radio Programas del Perú, Alan Garcia a protesté encore de son innocence en parlant de spéculation. En fin d'année dernière, il avait tout de même essayé d'obtenir l'asile en se réfugiant dans l'ambassade d'Uruguay à Lima. Il ne l'avait pas obtenu et avait été interdit de quitter le pays pendant 18 mois.
Le scandale Odebrecht qui fait trembler toute l'Amérique latine, l'Argentine notamment en proie à une forte inflation ces dernières années. En un an par exemple, les prix ont augmenté de moitié. Hier, le président argentin Mauricio Macri a fait une série d'annonces et il a choisi pour cela un contexte particulier, Caroline Vic.
Contre toute attente, le président Macri est apparu dans une vidéo filmée avec un portable, au son à peine audible, chez une famille de Buenos Aires. Dans la salle à manger, le chef de l'État discute avec le couple et annonce ainsi, de manière très informelle, comment il compte lutter contre le fléau de l'inflation qui s'élève à 4% par mois. Parmi ces mesures, des prix congelés sur plus de 500 produits dans les supermarchés, des réductions sur les médicaments pour les plus vulnérables, la limitation de la hausse des tarifs de l'électricité, du gaz et des transports en commun, ainsi que des aides aux PME pour éviter de les asphyxier. Juan Bonfiglio est sociologue et spécialiste de la pauvreté. Selon son dernier rapport, plus de 12 millions d'Argentins sont pauvres, soit 33% de la population. Pour lui, les mesures annoncées ne règlent pas le problème.
Ce sont des politiques compensatoires qui contribuent à éviter que la situation continue à se détériorer. Mais on a plus besoin de politiques à long terme qui impliquent et nécessitent de très gros investissements au niveau de l'éducation et de l'emploi. Là, ces mesures pourront au moins freiner le processus d'inflation. Mais ça ne permettra sûrement pas de régler le problème de la pauvreté.
Soulagement et répit, donc, qui ne durera que 6 mois, jusqu'en octobre, date justement de l'élection présidentielle. Des mesures qui, en plus de réduire les chiffres de l'inflation annuelle, serviront aussi à redorer le blason du président en perte de popularité.
Caroline Vic depuis Buenos Aires pour France Culture. Je vous le disais en sommaire de ce journal, conservateur du patrimoine et pompiers restent à pied d'œuvre pour sécuriser la cathédrale Notre-Dame de Paris, toujours menacée en 3 points. Les experts se penchent sur le système électrique de l'édifice. Une expertise que nous décrypte ce matin Thierry Fisson, il est consultant sécurité incendie au Centre national de prévention et de protection.
C'est vraiment des éléments visuels qui vont permettre de définir déjà l'endroit où l'incendie aurait pu démarrer. Des traces, c'est-à-dire des murs plus ou moins noircis ou des endroits qui sont plus ou moins chauffé, donc des indications qui donnent des températures plus élevées. Si ça démarre au niveau du sol, en général, on a ce qu'on appelle un V qui se forme sur la paroi, qui peut caractériser l'endroit où a démarré. Une fois qu'on a localisé l'endroit où le feu a démarré, on va regarder à cet endroit-là qu'est-ce qui aurait pu être présent en source d'allumage et en produit accélérant ou matière combustible. Donc on va prélever des échantillons de matière, de cendres ou d'éléments qui sont là. Et on va analyser ça dans des machines spéciales, des spectrographes ou des chromatographes, pour rechercher des traces de ces produits éventuellement accélérants. Au vu de l'état de la charpente, des combles, ça va être très difficile d'investiguer et d'avoir des éléments sur place.
L'enquête se poursuit donc et pendant ce temps, les promesses de dons grimpent jusqu'à 850 millions d'euros. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe annonçait un avantage fiscal majoré pour les dons effectués par des personnes physiques jusqu'à 1000 euros. Une initiative plutôt saluée par les Français qu'a rencontré Maud Calves.
Dans l'ensemble, tout le monde est plutôt d'accord pour dire qu'il faut évidemment reconstruire au plus vite le monument. Plus il y a de moyens, mieux c'est. Jean-Marie trouve donc cet appel à donner très louable.
C'est une très bonne initiative. J'y vois un biais formidable pour retisser de la cohésion sociale. Je vais donner, oui. Je pense que c'est très important.
Lowina, elle, salue l'initiative, mais reste étonnée de la réactivité du gouvernement.
Avec tous les derniers événements, avec les gilets jaunes, etc., où visiblement le mouvement il prend du temps à avoir une réponse en fait, du gouvernement, et là on a déjà des décisions qui sont prises, des vraies décisions, donc du coup oui, c'est plutôt ça, ouais, peut-être la question qu'on doit se poser maintenant.
Autre question que Laurent se pose, pourquoi ne pas le faire pour d'autres causes ?
Il ne faudrait peut-être pas qu'ils oublient aussi qu'il y a d'autres chantiers importants en France et à Paris particulièrement. Je pense aux migrants particulièrement qui sont aussi aux portes de Paris et pour lesquels on ne fait pas grand-chose.
Les promesses de dons atteignent déjà plus de 800 millions d'euros. 240 proviennent d'entreprises et de particuliers. Fabrice est donc un peu surpris de cet appel.
C'est peut-être pas vraiment utile, hein. Ils vont le faire d'eux-mêmes, hein, sans avoir besoin d'un appel de l'État. Le budget, ils en auront sûrement plus qu'ils en ont besoin. Hein. Ça, il n'y a pas de problème.
Hein. Édouard Philippe présentera la semaine prochaine un projet de loi pour placer un cadre légal autour de ces dons, notamment une réduction fiscale de 75% pour les particuliers. Édouard Philippe qui a aussi annoncé un concours international d'architecture pour reconstruire la flèche de la cathédrale. La réforme du lycée ne va pas corriger les défauts du système actuel, notamment la prédominance de la série S, la série scientifique. À 6 mois de la rentrée scolaire et de l'entrée en vigueur de la réforme, le SNES, principal syndicat d'enseignants du secondaire, publie ce matin une étude statistique. Nos confrères de France Info ont pu la consulter. Selon le syndicat, la réforme ne changerait donc rien à la hiérarchie des filières et maintiendrait les inégalités, Alexis Morel.
Les élèves doivent faire 3 choix de spécialité pour l'année prochaine. Eh bien, selon cette étude, ils ont tendance à reconstituer les anciennes séries, et surtout la série scientifique. Les maths, la physique et les sciences de la vie et de la terre arrivent nettement en tête des spécialités choisies, souvent combinées entre elles. Dans les lycées étudiés, 65% des élèves demandent les maths, près de 50% la physique. Pour le SNES, la réforme ne change donc rien à la prédominance de cette voie scientifique, à son prestige et à la hiérarchie entre filières. scolaire. Le ministre Blanquer a pourtant encouragé les élèves à sortir des choix classiques. Pire, selon le syndicat, la réforme reproduit les inégalités existantes. Les garçons sont toujours bien plus nombreux que les filles à choisir les spécialités scientifiques, spécialités beaucoup plus souvent demandées par les meilleurs élèves que par les plus faibles. De son côté, le ministère ne communique pas de bilan chiffré, mais Jean-Marc Huard, directeur général de l'enseignement scolaire, se dit surpris par les constats du SNES.
Ce n'est pas du tout la tendance que l'on observe. Ce qu'on nous dit, c'est que les élèves utilisent véritablement la liberté qui leur est donnée de choisir parmi l'ensemble des 12 spécialités.
Ces premiers choix des élèves de seconde ne sont pas définitifs, ils peuvent encore changer d'ici juin.
Les eurodéputés vivront aujourd'hui leur dernière session plénière au Parlement à Strasbourg. Hier, ils ont voté pour que les plateformes du web retirent tous les contenus terroristes dans un délai d'une heure maximum après leur publication. Les précisions de Johanna Hochstein.
33% des contenus terroristes en ligne se propagent en moins d'une heure, d'après les chiffres de la Commission européenne. C'est pour cela que les eurodéputés ont voulu agir vite. Rachida Dati, eurodéputée française, Les Républicains.
Pour l'Australie, avec l'attentat de Christchurch, la vidéo de cet attentat, qui était quand même extrêmement barbare, a été diffusée au bout de 29 minutes, plus de 1,5 million fois. Et donc il est important de faire retirer ces contenus en moins d'une heure pour éviter la contamination et la propagation de ces contenus haineux, criminels, barbares et terroristes.
Une plateforme devra donc retirer tout contenu à caractère terroriste dans un délai d'une heure à partir du moment où elle aura reçu une injonction de retrait de la part de l'autorité indépendante désignée dans son pays. En cas de refus répété et persistant, le texte adopté aujourd'hui prévoit des sanctions financières pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Sont donc concernés les textes, les images, les enregistrements audio ou vidéo qui incitent à commettre un attentat terroriste, qui encouragent le recrutement ou qui donnent des instructions pour la perpétration d'attentats. Comprenez par exemple le mode d'emploi pour fabriquer un explosif.
La météo de ce jeudi qui débute globalement ensoleillée sur l'Hexagone avec des températures qui remontent. 14 degrés ce matin à Besançon, 16 à Lille et Bordeaux, 17 à Paris, 19 à Marseille. Vous écoutez France Culture, il est 6h40. Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Dans votre journal des idées ce matin, vous revenez, Jacques, sur les mesures qui auraient dû être annoncées à l'issue du grand débat national. Elles ont été reportées suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais certaines ont déjà été exposées dans la presse.
Eh oui. Alors, par exemple, la réduction du nombre de parlementaires, l'introduction d'une dose de proportionnelle, la baisse de l'impôt sur le revenu, un possible retour de l'ISF, la simplification des règles du référendum d'initiative partagé, pas de fermeture d'école d'ici à 2022, la suppression de l'ENA, l'indexation des petites retraites. Cédric Pietralunga et Olivier Faye les passent en revue dans Le Monde, tout en précisant que l'Élysée ne confirme ni ne commente les fuites dans la presse au sujet de la sortie du grand débat national. Nul doute que tout cela ne lance de nouveaux et vifs débats. Quant à l'effet de blast des annonces présidentielles dont parlaient certains commentateurs, il risque fort d'être réduit à proportion de l'intérêt politique de l'exercice qui réside notamment dans l'effet de surprise. Comme l'indiquait hier Françoise Fressos dans son édito, la dramaturgie imaginée par le président pour sortir du trou d'air a d'ores et déjà changé, même s'il s'est nourri pendant 3 mois des attentes de son peuple, même s'il s'est enrichi d'une dizaine de débats. Emmanuel Macron ne peut incarner le roi thaumaturge capable de faire des miracles. En attendant sa prochaine intervention, nombreux sont ceux qui reviennent sur les conditions du grand débat et surtout sur la manière dont on en a tiré les conclusions. Dans l'hebdomadaire Le 1, Emmanuel Didier et Lou Wolf estiment que, tel qu'il a été organisé et interprété, ce grand débat aura tout autant été une caisse de résonance de la clameur populaire qu'un dispositif filtrant, contribuant à lui donner forme. Les sociologues, Lou Wolf notamment est administrateur de l'INSEE, spécialiste des enquêtes sociales, insistent sur la nature foncièrement politique de l'initiative, certes inédite en son genre. Les dispositifs mis en œuvre à la fois pour permettre les débats et pour analyser les contributions sont tous traversés d'intentions et d'hypothèses parfois implicites qui ont des des conséquences sur le type de message auquel ils permettent d'aboutir. Le recours aux technologies numériques comme expression et mise en forme de la parole populaire pose également question. S'agissant de deux sources hétérogènes, contribution numérique solitaire et compte-rendu de débat collectif, il est délicat de les articuler, d'autant plus que les interventions individuelles sont recueillies au moyen d'un questionnaire dont la formulation a été imposée. Et contrairement aux techniques de sondage qui recherchent une représentativité des échantillons ou au vote qui vise une participation aussi large que possible, ce grand débat, même s'il a accumulé de très nombreuses contributions, n'a touché qu'une partie sans doute peu représentative de la population. S'ajoute à cela le type d'analyse lexicale qui a été mise en œuvre dans les algorithmes pour classer les réponses, qui repose non pas sur la synthèse de ce que dit chaque individu, mais sur l'identification des sujets qui ont été soulevés lors de chaque intervention. Résultat, quelqu'un qui aura été prolixe et aura soulevé à chaque question un grand nombre de sujets sera représenté autant de fois dans les résultats finaux, alors que celui qui aura clamé haut et fort un seul point ne sera représenté qu'une seule fois. Et l'on sait que la faculté d'argumenter de manière détaillée est très inégalement répartie. Enfin, même si la masse impressionnante des données collectées est un principe accessible à tous sur le site du Grand Débat, quel citoyen isolé est capable de les analyser? C'est pourquoi le gouvernement a fait appel à des sociétés comme OpinionWay pour les traiter au risque de répercuter des biais d'interprétation. Les auteurs rappellent également que le site web du Vrai Débat, qui se présente comme porté par un collectif de gilets jaunes, ne fait pas appel à un questionnaire et suggère 9 thèmes d'expression. Il aurait attiré près de 44 000 contributeurs. La dernière livraison de la revue Le Débat publie un important dossier sur la France des gilets jaunes. Pour l'historien Pierre Vermeuren, les ronds-points sont une image forte et un symbole de la transformation de nos territoires sous le triple effet de la désertification rurale, de la désindustrialisation et désormais de la compression de l'économie de service. Notre pays en compterait au bas mot plus de 30 000, un record mondial. Au prix du rond-point, entre 500 000 et 1 million d'euros, ça fait au total 30 milliards d'investissements publics qui ne sont pas allés aux banlieues déshéritées ou aux zones périurbaines déconnectées. Outre sa fonction improbable pour remplacer un simple carrefour, son esthétique giratoire au milieu de zones dites industrielles, le plus souvent sans industrie, illustre la trilogie qui structure désormais la France périphérique, l'automobile, le réseau routier et la grande distribution. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Mignet, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui des enjeux, les élections en Indonésie.
C'est ça, élection générale. Et l'actuel président Joko Widodo et son parti sortiraient donc vainqueurs de ces scrutins qui rééditent finalement le match de 2014 qui l'oppose à l'ancien général Prabowo Subianto. Ce serait donc la victoire encore une fois de la nouvelle garde contre le camp conservateur. Sauf que 5 ans après, eh bien c'est le facteur islamique qui s'est imposé dans la campagne, un islamisme conservateur qui pourrait peut-être peser sur l'avenir du plus grand pays musulman au monde. Et on voit ça avec vous, Sophie Boisseau-Durocher, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes chercheuse associée au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, co-auteur récemment de La Chine et le monde chez Odile Jacob. Alors là, les résultats définitifs de ces élections indonésiennes ne seront donnés qu'en mai par la commission électorale. On parle donc de résultats non officiels, mais d'où qu'on les prenne, en fait, que ce soit 55% contre 43% ou 54% contre 45%, les électeurs semblent avoir confirmé le président Widodo pour un nouveau mandat.
Exactement. Et c'est un résultat qui est apparemment meilleur que celui de 2014 où le même match, c'est-à-dire Jokowi contre Prabowo, se tenait. Donc il semblerait que le choix de société porté par les citoyens indonésiens soit clair et qu'ils veulent une modernité laïque telle que la défend Jokowi.
Oui, juste un mot sur la contestation donc quasiment immédiate hein, du camp Subianto hier soir. Il disait qu'il avait, Prabowo Subianto, effectué son comptage réel, je le cite, dans 320 bureaux de vote. Il revendique 70%. Là encore, c'est comme en 2014 où il y a une petite chance que ce soit réel. cette constatation?
Écoutez, il semblerait quand même que ce soit une posture, hein, c'est-à-dire comme en 2014, il semblerait que le scrutin ait été mené sérieusement. Il y a, vu la taille de l'archipel indonésien, des risques évidemment, mais néanmoins, l'administration a pris ces élections très au sérieux. Ce ne sont pas seulement d'ailleurs des élections présidentielles, mais également législatives. Donc la posture de Subianto Prabowo n'a pas véritablement évolué depuis 2014, et évidemment, c'est de bonne guerre qu'il accuse son concurrent de triche.
Et vous l'avez précisé, pour la première fois ensemble, donc les élections présidentielles, législatives et puis un certain nombre de mandats locaux. Ça fait 245 000 mandats en tout. C'est ça qui fait qu'on aurait une participation, là encore non officielle, à 80%, la plus haute jamais estimée. Ou alors le fait qu'il y ait eu une campagne de recrutement assez extraordinaire et haute en couleurs, hein, avec des bureaux aux couleurs des super-héros, sur des thématiques d'horreur. Voilà, pour séduire les millennials, disait-il.
Oui, alors le vote n'est pas obligatoire en Indonésie, hein. Donc il fallait inciter, je dirais, les électeurs à passer par les urnes, et certains, effectivement, n'ont pas hésité à recourir à quelques subterfuges, comme par exemple des campagnes où des bureaux de vote où les éléphants amenaient amenaient les bulletins. Non, très sérieusement, c'est un enjeu incroyable que ces élections. On est dans un archipel où il y a plus de 13 000 îles. Il faut aller parfois dans des coins très reculés. En Papouasie, d'ailleurs, les bulletins sont arrivés tardivement. Donc, c'était véritablement un enjeu logistique majeur. Et puis, également, un enjeu de communication. Les candidats ne pouvant se présenter dans toutes les îles. Donc, il y a eu, effectivement, l'usage de la télévision, l'usage de la 3D, l'usage des médias sociaux qui a été largement sollicité, parfois en bien, parfois moins bien. On a vu que l'usage des médias sociaux était fortement utilisé par les plus conservateurs pour essayer d'attirer avec des messages relativement simplificateurs les électeurs.
Oui, avec cette vraie campagne d'infox, hein, comme on le dit en français.
Absolument.
Et puis cette campagne, là encore, extraordinaire, avec des hologrammes pour séduire 194 millions d'électeurs. Sur les enseignements du scrutin, donc Widodo reconduit, pourquoi on a beaucoup souligner son bilan économique, hein. C'était son grand projet en 2014 d'équiper le pays avec de meilleures infrastructures, lutter contre la pauvreté. Il y avait 225 projets prioritaires qui ont été annoncés. Cependant, c'est assez lent, hein. 26 seulement achevés en mars 2018, et puis le ralentissement de la croissance quand même.
Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, Jokowi représente quand même un véritable appel d'air dans les jeux politiques indonésiens traditionnels. Un appel d'air parce que finalement, c'est un peu un trublion, cet homme qui arrive du fin fond de l'île de Java, qui a été maire pendant 7 ans dans sa municipalité, puis gouverneur de Jakarta pendant 2 ans, et enfin président de la République. C'est un homme qui donc ne sort pas du sérail, mais qui est un pragmatique, c'est un chef d'entreprise, PME, et donc il est véritablement orienté, je dirais, vers l'efficacité. Et en fait, c'est cette efficacité-là qui a plu aux électeurs. Il faut quand même avoir à l'esprit que l'Indonésie est un pays ingouvernable, c'est un énorme pays, on l'a dit, un archipel de 13 000 îles, c'est un pays où les pesanteurs administratives, les pesanteurs politiques, les pesanteurs sociologiques sont très lourdes, et en dépit de toutes ces difficultés, Jokowi a réussi à faire avancer certains dossiers. Alors certes, ça a été moins rapide qu'espéré, mais les niveaux d'attente étaient très importants, mais néanmoins, ça a avancé. Deux exemples, les infrastructures, évidemment, on en a beaucoup parlé, mais quand vous allez à Jakarta, vous vous rendez compte vraiment de l'avant et l'après de Jokowi, des couloirs de bus qui fonctionnent, un métro, etc. Et puis, d'une part, et puis d'autre part, la réforme agraire. On en parle très peu, mais c'est un point important. La réforme agraire a été entreprise dès 2017 pour légaliser 5 millions de titres juridiques. Et puis, on est passé à 7 millions en 2018 et on annonce 9 millions pour 2019. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la précarité rurale se réduit. Et ça, c'est véritablement un point important pour les Indonésiens. Donc, voilà, si vous voulez, sur le terrain, des actions qui ont montré la détermination de Jokowi, qui a évidemment dans son programme insister sur la réduction des inégalités et sur une politique sociale beaucoup mieux répartie. Pas oublier que sur les 260 millions d'Indonésiens, 30 vivent encore sous le seuil de pauvreté.
Alors ce qui veut dire que finalement, pour ce qui concerne Widodo, le facteur islamique, la campagne assez bigote et conservatrice justement qui avait été lancée contre lui avec un certain nombre d'accusations, n'a finalement pas joué, ou alors qu'il a eu une bonne tactique en se rapprochant justement des islamistes conservateurs, disons.
Alors, il a évidemment eu une bonne tactique. Vous savez, il avait été échaudé par cette affaire qui a eu lieu en 2016-2017, où le vice-gouverneur qui avait pris sa place en 2014, quand il avait été élu président de la République à Jakarta, qui était un Chinois catholique, a été accusé de blasphème. Voilà, la fameuse affaire Aoc avait été accusée de blasphème et a été condamnée à 2 ans de prison. Joko Widodo avait donc retenu, si vous voulez, la leçon et avait bien pris la mesure de ce courant conservateur qui travaille la société indonésienne. Et pour le satisfaire, il avait, à la grande surprise de tous, choisi comme colistier Maruf Amin, qui est le président du Conseil des oulémas indonésiens, c'est-à-dire l'organe qui émet les fatwas et donc a un rôle excessivement important dans l'islam indonésien. Et donc, en choisissant ce colistier-là, il avait bien montré, il avait bien signifié à cette frange plus conservatrice qu'il avait compris le message et qu'il n'allait pas s'éloigner substantiellement de cette identité musulmane, même si, et c'est un point important, Jokowi défend le Pancasila, qui est donc cette idéologie, je dirais, purement indonésienne, qui respecte l'ensemble des religions qui s'expriment en Indonésie. Vous savez que l'islam n'est pas religion d'État, en dépit du fait qu'elle est pratiquée par 88% de la population.
Et de cet islam abangan, comme on l'appelle en Indonésie. Alors juste, dernier point, ça veut dire que pour Subianto, Prabowo Subianto à l'inverse, lui qui s'était rapproché des radicaux, appuyé par deux des principaux partis islamistes, ça n'a pas fonctionné alors ?
Alors, ça n'a pas fonctionné aussi bien qu'il le pensait. Hein. Il a véritablement, effectivement, fait le choix de s'allier avec les islamistes. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'objectif de Subianto Prabowo n'était pas de gagner obligatoirement ces élections, mais de mettre en ligne de mire son dauphin, c'est-à-dire son colistier, pour les élections de 2024, avec son parti, le Gerindra. Donc, en fait, ce qu'il va falloir suivre, c'est la trajectoire de Sandiaga Uno, hein, son colistier, actuel vice-gouverneur de Jakarta, pour savoir comment celui-ci va rebondir et préparer les élections de 2024 et gêner Jokowi dans sa mise en place de la modernité indonésienne.
Et oui,
il l'avait déjà bien gêné pendant ce premier mandat.
Et à surveiller ce Sandiaga Uno, peut-être futur Widodo. Je donne juste les chiffres estimés aussi des élections législatives. 13% pour Gerindra, le parti de Prabowo, et puis 20% à peu près pour le PDIP, parti de Widodo. Merci beaucoup Sophie Boisseau-Durocher.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Le jeudi 25 avril à 20h, à l'Auditorium de Radio France, les solistes de l'Orchestre National de France sont à l'honneur. De la découverte du rare concerto pour sept instruments à vent, percussions et cordes, de Franck Martin, au très virtuose concerto pour orchestre de Bartok, et une touche d'humour avec la symphonie dite classique de Prokofiev dirigée par Emmanuel Krivine. Réservation maisondelaradio.fr. Entrez au cœur du concert.
6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins avec Guillaume Erner. Bonjour Guillaume.
Mais oui, Xavier Martinet, bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Et vous arrivez avec une preuve la plus visible des inégalités, c'est la pizza.
Oui, alors effectivement, dit comme cela, c'est pas très clair. Mais alors, avec un chiffre, vous allez voir, tout va s'éclairer. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est une révélation d'ailleurs, France Culture Investigation, la pizza a franchi le seuil des 20 euros à Paris. Même chose, évidemment, à Lyon et à Nice, je vous dis pas. Ça faisait des mois que ça couvait, Xavier, mais c'est désormais officiel. J'ai trouvé une pizza. Alors, elle s'appelle la pizza Gambillo dans le 6e arrondissement de Paris. Tomates, cerises, jambon de Parme et roquettes à 21 euros, mais aussi une pizza Culaccia à Lyon à 20 euros. Une véritable prouesse lorsque l'on sait que la farine, la sauce tomate, bref, les ingrédients nécessaires pour confectionner une pizza ne doivent pas représenter beaucoup plus de 2 euros. Et quand je dis 2 euros, je pense que je suis généreux. Et cependant, ce qui s'étale sur ces pizzas, ce sont les inégalités françaises quand on se met à vendre un plat de pauvre à des tarifs de très riches. Alors vous imaginez quelle adresse, il a fallu quel travail de communication globale a été nécessaire pour réussir à faire accepter une pizza à 21 euros, un peu comme si on réussissait soudainement à vendre un poulet patate à 100 euros. Et l'on songe à une polémique qui s'est développée en 2017 aux États-Unis sur le toast à l'avocat. Le toast à l'avocat, c'est exactement la même chose qu'une pizza, c'est un morceau de pain sur lequel on a écrasé de l'avocat, un coût inférieur à 2 $, même si l'avocat est bio et le pain sans gluten. À l'arrivée, ça devient un avocat toast et s'est vendu 22 euros dans un restaurant new-yorkais. La polémique autour des toasts à l'avocat avait enflé lorsqu'un mania de l'immobilier a expliqué que les jeunes gens ne pouvaient pas accéder à la propriété parce qu'ils gaspillaient leur argent, notamment en consommant des toasts à l'avocat à 22 euros. Plutôt à 22 $, puisque c'était aux États-Unis. Alors ça donnera peut-être des idées à ceux qui pensent que la classe moyenne supérieure, s'appauvrit à coups de pizza Gambillo à 21 euros. En attendant, on peut se demander si la vente de pizza à 21 euros peut permettre à d'autres, moins riches, d'acheter plus de sandwichs jambon beurre à 3,90 euros, une conséquence de la théorie du ruissellement de sauce tomate.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Assiste-t-on au grand retour du conservatisme? Les élections européennes approchent et peut-être seront-elles l'occasion de jauger de l'état du rapport de force entre les différents courants de la vie politique française. Coincé pour la durée du quinquennat entre le progressisme d'Emmanuel Macron et le nationalisme du Rassemblement National, la droite française va voir si François-Xavier Bellamy est susceptible de lui redonner de l'envergure. On évoque l'avenir du conservatisme en compagnie d'un docteur en sociologie chargé de cours à HEC Montréal, Mathieu Bock-Côté. Il sera notre invité aux environs de 7h40. En attendant, très bon réveil à tous sur France Culture. Il est 7h.